Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans l'Épître de Paul à Tite, le chapitre 3. Et mon texte aujourd'hui, nous savons que même si un pécheur est un pécheur élu de Dieu depuis l'éternité, désigné au salut par la grâce du Seigneur, et pour qui le Seigneur est venu dans ce monde et payé sa dette, néanmoins, né dans ce monde, il est né comme tout autre pécheur, c'est-à-dire sans l'Esprit de Dieu. Et il faut que Dieu fasse une œuvre de grâce à un moment donné, prévu par Dieu lui-même. Ce temps ne dépend pas du pécheur lui-même, mais de Dieu, comme Paul l'a témoigné aux Galates, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en moi. C'est ainsi que la vie est entrée dans un tel pécheur et il y a maintenant un changement. Et donc, délivré de la perdition, nous avons ici dans cette explication en Tite chapitre 3, que Paul donne à Timothée, rappelle-leur, c'est écrit, d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne heure. Si ce n'était pas vrai que nous vivons toujours dans un corps et une chair dépravée, on n'aurait pas besoin d'entendre de telles instructions qu'on peut donner ici. Le fait qu'il vit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, cela signifie que nous avons dans notre nature, même en tant qu'enfants de Dieu, d'être insoumis, d'être rebelles. Telle est notre nature qui existe depuis notre père Adam. C'était une telle rébellion qui a emmené maintenant toute une race, toute la race d'humanité dans la perdition à cause de la rébellion. Et donc même en tant qu'enfants de Dieu vivant dans ce monde, nous avons cette nature de se rebeller contre toute autorité. Et si vous ne le croyez pas, il suffit d'être peut-être dans un emploi quelque part où le patron donne un ordre et nous résistons. Nous n'aimons pas. Nous qui prêchons l'évangile que Dieu a établi dans le ministère, lorsque nous exhortons nos congrégations, la nature de ceux qui nous écoutent, c'est de se rebeller. Même si c'est la parole de Dieu, et nous sommes en train de lire cette parole, et nous déclarons cette parole, mais le cœur de l'homme est toujours insoumis, si ce n'est par la grâce de Dieu et l'œuvre de l'Esprit qui nous dirige. C'est pourquoi il dit d'obéir, de se soumettre. Le mot obéir là signifie d'entendre. Ce n'est pas simplement d'écouter. Parfois nous donnons des ordres à nos enfants et ils écoutent. Mais nous devons les arrêter pour les demander, est-ce que vous m'entendez? Vous avez compris? Ce n'est pas simplement une question de dire oui, mais maintenant d'agir selon les instructions données. Voilà le sens du mot obéir. Et il nous faut cette grâce de Dieu. Telle est la dureté de notre cœur. Donc, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. C'est-à-dire de servir à la gloire de Dieu, parce que nous savons qu'en nous-mêmes, nous n'avons aucune bonne œuvre. Mais si nous agissons selon la parole, voilà la bonne œuvre, parce que c'est par l'Esprit, selon la parole, que nous agissons. Nous savons que ce n'est pas dans notre nature de suivre et d'obéir, mais par la grâce de Dieu, nous suivons. Puisque c'est écrit ici, dans la parole de Dieu et par l'Esprit. Et c'est une manière aussi de honorer, rendre honneur à l'Évangile que nous professons, comme nous avons vu dans notre dernier message, Tite chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Source de salut pour tous les hommes, c'est-à-dire les hommes de tout genre, quelle que soit leur place dans la société, quelle que soit leur ethnie, que c'est la grâce de Dieu qui est la source du salut. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine. Voilà encore, sans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, aucun de nous ne pouvait vivre d'une manière à honorer la gloire du Seigneur Jésus-Christ, mais avec cette grâce, nous renonçons à l'impiété, à tout ce qui est contraire à la gloire de Christ et au convoitise mondaine. Cela nous montre déjà que c'est toujours une tendance dans notre chair de poursuivre ces convoitises mondaines, mais de vivre dans le siècle présent selon quoi? La sagesse, la justice et la piété. On peut décrire tous ces trois mots-là en disant selon Christ, parce que c'est Christ qui est notre sagesse. C'est Christ qui est notre justice. Il a satisfait la justice de Dieu à notre égard. Et c'est Christ qui est notre piété. C'est ce qu'il a rendu à son Père qui devient maintenant, par substitution, notre piété. C'est pourquoi nous pouvons vivre pour sa gloire en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Voilà, tout dépend maintenant du rachat, de la mort. Et il a fait tout cela de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui. Ce n'est pas par nos œuvres, mais par lui, par son œuvre. Lorsque Christ a crié du haut de la croix, tout est accompli. Voilà. C'est à ce moment-là, lorsqu'il a rendu sa vie, que Dieu maintenant a déclaré juste. Et en versant son sang, il a déclaré juste chacun pour qui il est mort. Notre justification devant Dieu, notre sanctification ne dépend pas de nos œuvres. Notez bien, purifié par lui. Mais le résultat est d'être alors zélé pour les bonnes œuvres, zélé pour tout ce qui lui donne la gloire et l'honneur. Que ce soit ce que nous disons, que ce soit ce que nous faisons, que ce soit ce que nous pensons. Mais nous avons besoin toujours que l'Esprit nous rappelle, comme nous vivons, nous voyons ici dans le verset 1 du chapitre 3, d'être soumis à tout ordre, selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit à Tite, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Alors nous avons un message à annoncer concernant la gloire de Dieu en Jésus-Christ et sa grâce qui effectivement purifie les pécheurs pour qui il est mort. Mais avec ça vient aussi des instructions. Étant en Christ maintenant, voilà comment nous devons vivre et nous vivons dans cette vie. Parce qu'il y a des autorités, des magistrats que Dieu lui-même a placés au-dessus de nous pour notre bien. Et nous ne devons pas agir contre ces autorités simplement parce que peut-être nous ne sommes pas d'accord avec leur politique. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui qui se mélangent dans la politique. Chaque fois qu'il y a des élections dans des pays, voilà, les paysans sont motivés et il y a même des assemblées qui entrent dedans pour choisir le candidat et qui pensent à dire du mal des autres. Mais faisons attention. Parce que, comme c'est écrit dans Romains chapitre 13, et c'est ici que nous voyons lorsque Christ était sur cette terre et qu'il marchait avec ses disciples, nous ne voyons jamais Christ en train de mener une protestation dans les rues contre César ou contre quelque autorité que ce soit. Mais c'est le contraire. Notre rôle dans cette vie, c'est d'être soumis à toute autorité. Et voilà pourquoi Romains chapitre 13 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, que ce soit le président, un gouverneur ou même le maire d'une ville, le chef dans un village quelque part, ces hommes sont établis pour l'ordre. Et qui les a établis? Je sais que les hommes font leur choix. Mais ici, c'est écrit car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Comme je disais plus tôt, la raison pour laquelle ces choses sont écrites ici, c'est parce que nous avons cette tendance de vouloir avoir le dessus sur tous ceux qui sont autour de nous. Mais la grâce nous apprend à être soumis dans une attitude d'obéissance. Bien sûr, si ceux qui sont dans ces positions d'autorité ordonnent certaines lois qui vont contre ce que la Bible dit au sujet de la manière que nous devons obéir Dieu, vivre à la gloire de Dieu, donc c'est comme Pierre a dit, jugez-vous vous-même si c'est mieux d'obéir l'homme ou bien d'obéir Dieu. Il y a parfois peut-être des cas où nous devons résister et simplement dire non. Nous ne pouvons pas nous soumettre à cet ordre parce que ça va contraire à la parole de Dieu. Et puis subir les conséquences. C'est pour cela il faut être emprisonné ou quoi, mais c'est Dieu toujours qui dirige. Et nous nous remettons à Dieu. Alors, si c'est écrit ici, c'est parce que telle est notre nature. C'est pourquoi Paul dit à Tite de le rappeler dans le verset 2, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voilà notre nature. Et peut-être avant que l'Esprit de Dieu ne fasse son œuvre en nous, on serait de leur nom. Et on peut bien témoigner que, en effet, bien de fois, nous étions de ce nom, de médire et de se révéler et de minimiser d'autres pour nous élever devant leurs yeux. Telle est notre nature. Comme le verset 3 nous le dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. C'est pourquoi le titre de ce message est délivré de la perdition. Telle est notre perdition. Jusqu'au moment où il a plu à Dieu maintenant de révéler Christ en nous. Et c'est là que les choses ont changé. C'est grâce à la bonté de Dieu, comme nous allons voir la prochaine fois, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes qu'il a choisis depuis l'éternité, qui sont dispersés partout dans le monde, que son amour pour nous qui sommes les objets de cette grâce. C'est par là qu'il nous a sauvés. Le verset 5. Délivrés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce sont des versets que nous allons considérer prochainement. Mais dans ces versets 1 à 2, ici en Tite, Tite avait à rappeler diverses choses. Ça fait partie d'être un prédicateur, un pasteur, un sous-berger de l'assemblée où le Seigneur nous a placés, ici dans cette île de Crète, où ces Crètes étaient renommées de vivre de n'importe comment. Comme Paul a signalé déjà dans le chapitre 1, l'un d'entre eux, dans le verset 12, leur propre prophète a décrit, toi toujours menteur, méchant bête, méchante bête, ventre paresseux. Voilà le témoignage des Crétois. Et il dit, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Et c'est pour nous montrer que ceux qui sont autour de nous, nous ne pouvons pas dire autrement que les hommes nés dans ce monde, pécheurs, dépravés, voilà le témoignage des Écritures, ne sont que des menteurs, méchants bêtes et vents paresseux. Ils n'ont aucun intérêt aux choses qui concernent la gloire de Christ, donc ça ne doit pas nous surprendre. Lorsque nous voyons autour de nous de tels gens, ce qui doit nous surprendre, c'est que nous ne soyons plus de leur nombre, que la grâce de Dieu a fait cette distinction et a changé complètement notre manière de réfléchir en ce qui concerne les choses de ce monde. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, que Dieu nous a sauvés, mais par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, que nous avons été rachetés et séparés, mis à part, pour la gloire de Christ. Donc il nous faut cette délivrance de cette perdition, qui retient beaucoup jusqu'à la fin. Ils vont vivre de cette manière toute leur vie, et puis à la fin, entrer dans la perdition éternelle. Ils vont mourir comme ils ont vécu, perdu. Et tel était notre cas si ce n'était la grâce du Seigneur. Elles étaient au nombre de 7, de même aussi au verset 3, les choses qui les caractérisaient. Cela avant leur conversion, ils avaient la même manière de vivre que les autres. Alors, c'est pourquoi la première chose que Tite devait leur rappeler ici dans le verset 1 était la soumission aux autorités, instituée par Dieu dans ce monde. C'est intéressant, en lisant la Bible, combien de fois la soumission est mentionnée, non seulement dans cette épître, mais très souvent ailleurs. Et nous avons déjà vu pourquoi. Parce que c'est notre attitude de vouloir vivre dans la rébellion. Telle est notre caractéristique en tant que pécheur. C'est ainsi que même le Seigneur a dit à Pilate, lorsque Pilate lui disait, en posant des questions, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner? Christ a répondu, tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne l'était donné de Dieu. Même en cela, selon la volonté de Dieu, il a accepté d'être livré au magistrat et au pouvoir du gouverneur. Et nous avons l'exemple de plusieurs fois ou cas où il faut se soumettre. Et c'est pourquoi il dit deuxièmement d'être obéissant. L'obéissance peut-être a un différent sens que la soumission. D'être obéissant, cette dernière est passive et la première est active. C'est-à-dire, nous avons cette attitude toujours d'obéir, d'être obéissant à ceux qui ont ces positions d'autorité au-dessus de nous. C'est une soumission, sachant que Dieu lui-même a établi toute autorité au-dessus de nous. Quand il dit troisièmement d'être soumis ou prêt à toute bonne œuvre dans le verset 1, c'est Dieu et non pas nous qui a préparé à l'avance les bonnes œuvres pour que nous y marchions. Dans Éphésiens chapitre 2, nous voyons cela. Donc, nous ne pouvons même pas nous glorifier en quelque bonne œuvre que ça soit. Même les enfants de Dieu, lorsqu'ils font quelque chose de bien que les gens apprécient, ils ne sont pas en train de se donner la gloire. Ils reconnaissent que non, même cela, c'est Dieu lui-même qui agit à travers moi pour que je fasse ce qui pouvait être apprécié comme une bonne œuvre pour la gloire de Christ. Et je dois dire, si c'est une bonne œuvre, c'est parce que c'est Christ lui-même, de par son sacrifice, qui a rendu toutes nos œuvres bonnes. Ici, dans Éphésiens chapitre 2, c'est écrit, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme, parce qu'il dit, « Non, on ne doit pas parler de bonnes œuvres. » On ne parle pas de bonnes œuvres venant de l'homme, mais de ce que Dieu lui-même a fait à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour son honneur et sa gloire. Même le fait d'être un enfant de Dieu est une bonne œuvre de la part de Dieu. Autrement, je ne pouvais même pas avoir cette appellation d'être enfant de Dieu. C'est par sa grâce. Mais ici, c'est écrit dans le verset 10 que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, toute la gloire revient à Dieu. C'est de nous rappeler que ça fait part de sa grâce. Et encore, une délivrance de la perdition où il ne nous a pas laissés dans nos propres œuvres qui allaient amener à la condamnation, mais nous a délivrés par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 2, encore, toutes ces choses sont citées et ça nous rappelle que, non, il est en train de me décrire ici, telle est ma nature. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui qui n'admettent jamais qu'ils étaient et qu'ils sont des pécheurs. Mais lorsque nous lisons ce qui est écrit ici, ça s'applique à nous. Personne ne peut lire et dire non, il parle de quelqu'un d'autre, non. Ça c'est ma nature. Donc ici, de ne médier de personne, c'est-à-dire injurier personne. Si vous croyez que vous n'êtes pas impliqué, il faut réfléchir la dernière fois que vous avez répondu à quelqu'un. Puisque ce que cette personne a fait était pour vous une insulte, donc vous êtes lancé maintenant dans des injures au retour. Ça, c'est la nature de l'homme. Et c'est Dieu qui doit nous retenir dans cette nature par sa grâce, afin que nous ne médisons de personne, nous injurions personne, mais nous nous remettons tout à notre Dieu, exactement comme notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Lorsqu'il était injurié, il ne répondait pas, mais il remettait son cas à son Père. Ça, c'est la grâce. Essayer d'être pacifique, de n'être pas être querelleur. Combien de fois notre bouche dévoile ce qui est dans le cœur et laisser à nous-mêmes telle est notre nature. La méchanceté, la haine, on peut pas, on peut peut-être pour un certain temps couvrir ce qui est dans le cœur quand on est en face de certaines personnes et prétendre être juste. Mais Dieu nous met dans des situations où tout cela est dévoilé. Et voilà, on voit maintenant la méchanceté, la haine, la colère, l'orgueil et la moquerie qui produit les querelles. Tout cela est dans notre nature. Quand il dit, sixièmement ici, parce que j'ai dit, il y a sept caractéristiques qui sont signalées ici, voilà, le sixième, d'être modéré, cela signifie d'être humble et doux. Je dois dire que cela va contre notre nature encore, puisque nous sommes pécheurs, et c'est ainsi que nous agissons souvent pour revendiquer notre droit. Et cela n'est pas en train de parler seulement d'autres personnes. Nous sommes visés ici. C'est pourquoi nous avons besoin d'être délivrés. Oui, nous avons été délivrés lorsque Christ a payé notre dette, mais je parle maintenant d'être délivrés quotidiennement par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, afin que nous ne suivions pas ce qui est de notre nature. Il n'y a pas de plus grand exemple de quelqu'un d'être modéré que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Isaïe a dit qu'il était comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, devant ceux qui le dépouillaient de tous ses droits et de toutes ses dignités, en sorte qu'il a été retranché. Le sens signifie n'ayant rien. Voilà ce qu'il a dû subir. Et pourquoi? Parce qu'il était en train de prendre le péché sur lui qui nous condamne. Mais il fallait que lui, en tant que médiateur et substitut, qu'il satisfasse exactement ce qui était notre condamnation. Mais qu'il obéisse parfaitement afin que Dieu soit juste tout en justifiant ceux pour qui il est venu et qu'il est mort. Ah, quelle grâce quand nous contemplons que voilà ce que nous étions. Mais c'est de ça que Christ nous a délivrés. Autrement, ça devait servir à notre perdition à jamais, ou toujours. Et puis, le septième caractéristique que nous voyons ici, plein de douceur envers tous les hommes, montrant toute douceur. Ce caractère dont il est fait ici mention diffère du précédent, parce qu'on dit modéré puis plein de douceur. Ici, il s'agit de cette douceur aimable qui est la grâce de Dieu. En ce qui concerne être modéré, voilà l'effet de la grâce de Dieu, mais ça provient de cette douceur que la grâce de Dieu donne. Voilà un des attributs de la grâce de Dieu et de la personne de Jésus-Christ qui est apparu à tous les hommes pour les attirer à lui. C'est pourquoi Christ a dit « Apprenez de moi, car je suis débonnaire, c'est-à-dire doux et humble de cœur. » Ça, c'est en Matthieu chapitre 11, verset 29. Donc, ce que Christ est pour nous, voilà la manière qu'il nous dirige lorsqu'il nous fait grâce. Et je serai le premier à dire que je suis coupable. Parce que en rien, en tout cela, je peux dire que je suis parfait. Non, j'échoue tous les jours, à tout moment. Mais néanmoins, j'ai un sauveur que lorsque je lis ce qui est écrit ici, je vois en lui tout ce qu'il a accompli à mon égard. Et voilà pourquoi je suis délivré de cette perdition. Parce que ça, c'est une maladie mortelle. Que si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça allait nous amener tous à la condamnation. Mais grâce rendue à Dieu. C'est comme Paul a décrit dans Romains 7. Qui me délivrera du corps de cette mort? Je rends grâce à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Donc, tout en lisant cela, et en suivant cette instruction de comment nous devons enseigner, instruire les autres, nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul qui a pu vivre de cette manière, et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans le verset 3, lorsqu'il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Voilà encore sept choses, comme il y a sept choses cités dans le verset 1 et 2, ici dans le verset 3, nous avons encore sept choses de nous rappeler ce que nous étions. C'est un tableau complet de l'état de tous les hommes, mais particulièrement nous, dans notre nature pécheresse. Mais c'est écrit, car nous aussi nous étions. Cela ne veut pas dire que maintenant nous sommes sans péché, mais de notre manière de vivre, nous étions exactement de leur nom, quoique élus. Mais c'est pour ça que Christ est venu dans le monde, pour payer la dette, pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Et voilà la seule raison nous sommes délivrés de cette perdition. Autrement, nous ne pouvons pas regarder à qui que ce soit pour déboîter, pour dire « Ah, ah, ah !» Pourtant, nous sommes aussi de même nature, insensé. Ça décrit notre état de perdition avant que Christ ne soit révélé en nous. C'est le caractère de l'homme pécheur. Et c'est comme ça que nous sommes décrits dans le psaume 14. Le cœur qui dit, il n'y a point de Dieu. Nous vivions pour nous-mêmes. Ça, c'est insensé. Sans connaissance de Dieu, tant que l'Esprit de Dieu ne le révèle, tel est l'état. Les hommes perdus, tel était notre état. Jusqu'au moment où il a plu à Dieu de révéler Christ en nous. Deuxièmement, désobéissant. On a déjà vu cela dans le premier tableau. Que notre nature et de rester indifférent en ce qui concerne Dieu et en ce qui concerne son Fils. Égaré. Combien cela décrit notre nature en tant que brebis perdu, égaré jusqu'au point où on ne pouvait jamais retrouver le chemin. C'est pourquoi c'est la folie d'imaginer que Dieu a ce plan de salut et maintenant ça dépend de chacun de prendre sa décision. Non. Telle est notre nature égarée. On ne pouvait jamais, même si c'est devant nous dans la parole, jamais venir, comme Christ a dit dans Jean 6, si cela ne lui a été donné par le Père. Asservi, ça c'est le quatrième caractéristique, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. Une autre manière de dire cela, c'est livrer à nous-mêmes. L'âme égarée est livrée à lui-même, est esclave de cette nature pécheresse. Il n'y a pas de libre arbitre. Non, livré à toute espèce de convoitise et de volupté. si Christ lui-même intervient, si l'Esprit de Dieu ne n'ouvre pas ce cœur pour connaître Christ, alors tel serait notre cas jusqu'à la fin. Cinquièmement, c'est écrit vivant dans la méchanceté. Il n'y a rien de bon que la Bible a dit de l'homme dans sa nature pécheresse. Le cœur du pécheur va toujours trouver une satisfaction à suivre ses méchants instincts. Et c'est dans ça qu'il vit. Donc ceux qui prêchent le livre à vivre pour dire que Dieu a déjà fait tout ce qu'il peut maintenant, le reste dépend de vous, ils ne connaissent pas leur propre nature pécheresse, leur perdition. Parce que sans que Christ fasse cette œuvre du salut du début jusqu'à la fin, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'homme restera dans sa vie, dans la méchanceté et dans l'envie. Et ça, c'est le cinquième point. Sixièmement, notez bien, haïssable. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ce que dit la Bible, que Dieu puisse haïr des pécheurs pour les condamner. Ils supposent qu'il y a quand même quelque chose de bien en eux, que Dieu peut apprécier, mais ils ne connaissent pas leur propre nature. C'est pourquoi, en sixième lieu, ici, c'est écrit « digne d'être haï ». Quand quelqu'un nous dit « Ah, mais je ne comprends pas comment Dieu peut condamner les pécheurs à l'enfer », ils ne connaissent pas leur nature. Ce n'est pas surprenant que Dieu dit qu'il a haï Ésaü. Ce qui doit nous surprendre, c'est qu'il a aimé Jacob, parce que c'est tout ce que nous sommes, des Jacob, des trompeurs, et dignes d'être haïs. Ceux qui ont l'esprit de Christ en eux, ils sont les premiers à confesser, oui, j'étais digne d'être haï. Et si Dieu m'aurait laissé à moi-même pour me condamner avec le reste du monde, il serait juste tout en faisant cela, parce que je suis digne d'être haï. Je n'entends pas des gens en train de parler comme ça, parce qu'ils sont encore livrés à cette pensée que non, quand même, il y a quelque chose de bien, et c'est dans cette mensonge, ce mensonge qu'ils vivent. Aïssa! Et puis, septièmement, c'est écrit, et nous haïssons les uns les autres. Ici, la haine est mutuelle. L'homme naturel ne hait pas par sentiment, simplement, en certains cas. Non, c'est écrit ici, et nous haïssons les uns les autres. C'est réciproque. Voyons comment le mal existe chez les autres. Et nous sommes, peut-être il faut le dire, nous sommes toujours prêts à haïr quelqu'un pour ce qu'ils font sans savoir que non, nous sommes le même cœur. Et donc, c'est ainsi que nous vivons, nous haïssons les uns les autres. Vous ne voyez pas alors combien c'est important la grâce du Seigneur et que nous exaltons le Seigneur dans cette grâce, si nous sommes les objets de cette grâce. Autrement, on ne serait jamais délivré de cette perdition. Alors que le Seigneur nous humilie devant lui et que nous le remercions que si nous sommes un objet de sa grâce, ce que nous étions autrefois, c'est lui qui a fait la différence. Alors que son nom soit béni. Amen.